Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de The Wrestling Talk. Ce soir, enfin aujourd'hui, nous allons décrypter WrestleMania 33 qui s'est déroulé dimanche dernier. Avec moi, pour en parler, Anto de Catch News. Bonjour Anto. Et je crois qu'il y a un souci de son, donc je crois, attendez, on va régler ça dans quelques secondes. Bonjour Anto, excuse-moi, c'est là on va t'entendre.
Oui. Oui, on m'entend. Bonjour, maintenant. Ça va?
Ça va bien, tu t'es levé encore très tôt pour nous.
Oui. Encore une fois, je me sacrifiais.
Ouais, c'est ça, tu t'es sacrifié, mais c'est ça d'habiter au Québec aussi, quelle idée. Viens en France, ça marche très bien aussi, tu vois, comme ça, t'es pas obligé. Mais c'est bien aussi pour le décalage horaire, c'est que tu peux regarder le catch en direct et en fait, en gros, t'as pas besoin de te coucher à 5h du matin. Parce qu'il faut savoir quand même que WrestleMania a fini quasiment à 6h30 du matin en France, si vous l'avez regardé en live. Et avec nous aussi, bonjour Andy. Andy, lui, bonjour. Est bien en France. Il est à Pau, si je me rappelle bien. C'est ça.
Ouais.
Bon, ça va. Bientôt les vacances. C'était pas tout à fait pas encore les vacances, hein. C'est ça, hein, d'après ce que j'ai compris.
Ouais,
d'accord.
Une semaine.
C'est la phrase la plus courte de l'histoire. J'espère que vous serez beaucoup plus motivés sur la suite. Alors, nous allons décrypter WrestleMania 33. Nous allons commencer par le pré-show. Nous allons dérouler la carte. Nous allons analyser les résultats et donner notre avis sur les matchs qui se sont déroulés pendant cette soirée magique à Orlando. Un premier mot avant de commencer. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'arène, de cette fameuse arena ou de ce stade, The Camping World Station, Stadium, pardon, où ils avaient construit une sorte de parc d'attractions avec des grands 8, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé du thème qu'ils ont utilisé pour ce stage, Andy?
Ben moi, déjà, j'ai trouvé que c'était la meilleure arène qu'ils aient construite de tous les WrestleMania.
Ouais.
Ben, elle était bien. Après, ça représentait aussi bien Orlando, comme ils ont dit, hein, avec l'espèce de parc d'attractions, comme ils voulaient faire, du moins parc, non, mais voilà, vous m'aurez compris. Je trouvais c'était très, très bien.
Ça t'a plu? Alors, Anto, il faut savoir, l'information, tu la connais, c'est le stage qui a coûté le plus cher à construire. On dit que ça a coûté 5 millions de dollars en termes de production de stage. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, alors, Anto, finalement, de cette ambiance de stage de WrestleMania 33?
Exactement, je suis exactement d'accord avec Andy. Puis, c'est pas pour rien, mais qu'il a coûté très cher, là, parce que dans le fond, mais ça paraît. Puis, le résultat était là. Pour être franc, c'était très beau visuellement.
Et il faut savoir que le show, la plupart du show s'est déroulé la nuit, ce qui donnait quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà. C'est vrai qu'on avait reproché, je crois, à WrestleMania 32 ou 31, je ne sais plus, qui s'était déroulé quasiment tout en après-midi. Tu nous expliquais, c'était par rapport au décalage horaire. Tu peux en dire deux mots, Anto, sur cette histoire de décalage horaire, d'horaire, etc. Ça, c'est pas très clair peut-être pour nos auditeurs.
Oui, exact. C'est parce qu'aux États-Unis, les gens ils sont pas tous sur le même créneau horaire. Donc, par exemple, si on prend l'an dernier, mais pour les gens de la ville, donc en fait,
c'était au Texas, hein? C'est ça, hein?
Exact. Donc, quand ils étaient, par exemple... quand il était par exemple à 4h du matin en France ou 22h à Montréal, mais pour eux il était encore plus 20h. Donc en fait c'est normal qu'il faisait encore plus jour.
Il faisait jour et voilà, et c'était presque l'après-midi, c'était un show d'après-midi. Bon, en tout cas, sur ce WrestleMania 33, c'était quasiment de nuit tout le temps. Avant de dérouler tout ça, il faut savoir que pendant ce show avait été diffusé sur AB1 en direct et était commenté par nos deux amis Philippe Chéreau et Christophe Ajuste. Vous pouvez toujours retrouver l'interview que nous avons faite d'eux, où ils parlent de Goldberg, de WrestleMania 33, de Roman Reigns et fans, mais aussi de la communauté internet. Et ça, c'est incroyable. Sur Catch News, on a dépassé les 3000 vues. Voilà, on vous remercie. C'est dans le cadre de l'aventure WrestleMania. Et vraiment, ils vous donnent plein d'anecdotes sur WrestleMania. Et je pense que vous allez découvrir plein de choses. Alors, on arrête de parler maintenant de choses qui ne nous intéressent pas. Et on va commencer par le premier match du pré-show, qui était un match pour un championnat, un Cruiserweight Championship, donc un championnat de poids moyen, qui mettait en scène Austin Aries et Neville, c'est ça. Neville est arrivé champion et il repart champion, c'est ça. En gros, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, Anto, pour commencer de cette manière?
Oui, ça, pour être franc, c'était très intéressant, très technique, puis il y a eu bien de l'action, puis on a vu que les deux se sont bien donnés, même à prendre des prises directement sur leur coup, là. Il y a eu le spot avec Austin Aries.
Oui, je t'ai coupé, pardon, vas-y.
Oui, donc en fait, ça c'est un très bon combat pour débuter puis créer de l'ambiance, là. Ils ont bien fait ça tous les deux, là, sincèrement.
C'est peut-être un des meilleurs matchs in-ring d'ailleurs du show. C'est quand même assez incroyable, c'est qu'on commence par ça. Bon, c'est normal aussi vu les techniques des deux lutteurs et surtout de leur poids moyen. Qu'est-ce que tu as pensé de ce début de show, Andy? Est-ce que c'était assez gros pour lancer un show? Alors cependant, c'était un pré-show, hein. Donc c'est toujours un peu compliqué.
Oh, moi, ce match, bon, bah, déjà, j'aime pas trop cette catégorie parce que, bon, on la connaît déjà, on sait ce qu'ils sont capables de faire, mais comme la WWE les a, comparé au tournoi, ils sont moins, je veux dire, ils font moins de figures en l'air et tout, alors que dans le tournoi à Cruiserweight, ils étaient beaucoup plus sur en l'air, bon, voilà, vous comprenez.
Et rien, ouais.
Après, bon, le match, on se doutait déjà que Neville allait gagner, donc, bon, voilà, c'était pas non plus une
Oui,
grande surprise.
le résultat est une surprise pour toi, Anto, ou finalement c'est la continuité des storylines qu'ils ont installées dans le ce championnat pour moyen?
Ben, en fait, comme j'avais mentionné, mais dans les prédictions, c'était la continuité mais qu'il fallait pour Neville puis le show. Parce que je pense qu'il faut qu'il continue dans cette direction-là, qui était justement mais la bonne voie, là, avec Neville champion, là, ça se passait bien.
Donc, vous êtes plutôt content des résultats, ça, on va dire que c'est dans une sorte de continuité, il n'y a pas vraiment de surprise. Moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont vraiment, mine de rien, et c'est pour ça que je disais qu'au niveau des matchs in-ring dans le show, c'était peut-être l'un des meilleurs. On voyait que c'était leur première WrestleMania, si je ne me trompe pas, et on voyait qu'ils voulaient tout donner et montrer une superbe image de leur catégorie. Vraiment, je n'ai pas été déçu par ce match. Il aurait peut-être même mérité la main card. Bon, là, ça, c'est mon propre avis. Il y a des matchs beaucoup moins bons qui étaient en main card, mais qui étaient beaucoup plus vendeurs et avec des grosses stars. Donc voilà, il y a une explication. Mais victoire logique de Neville qui continue son petit bonhomme de chemin. On enchaîne avec le deuxième match du pré-show. Alors là, c'était la Battle Royale. Alors là, il y avait tous les clodos, hein. Alors là, il y avait plus personne, hein. Il y avait Braun Strowman, Sami Zayn, Big Show, Dolph Ziggler, excusez-moi, Apollo Crews, Jey Uso, Jimmy Uso, Chad Gable, Jason Jordan, Mark Henry, Titus O'Neil, Golden Truth, Curtis Axel, Primo, Epico, Bo Dallas, Jinder Mahal, Rhino, Heath Slater, Mojo Rawley, Kurt Hawkins, Tyler Breeze, Fandango, Simon Koch, Aiden English, Kalisto, Victor, Connor, Tian Bing de la NXT, Killian Dane de la NXT et Sin Cara. Donc ça fait beaucoup de monde. Trop de monde peut-être, Andy.
Ouais, non, mais après, je pense que c'est tous ceux qui n'ont pas pu être dans le show, donc ils les ont mis là, donc bon, au moins ils ont quand même eu un match. Mais après, triste quand même pour le Big Show, parce que si c'est
Ah,
vraiment son dernier
on va y
WrestleMania, il a
revenir.
fini quand même.
On va y
Ouais, mais
revenir.
si c'est son dernier WrestleMania et qu'il finit comme ça, c'est très très nul. Braun Strowman n'a pas gagné, et là, par contre, on a été étonnés quand même, parce qu'on
Oui,
avait
tout le
tous
monde
dit
avait
que Braun
pronostiqué,
Strowman
hein,
allait
c'est vrai.
gagner.
C'est vrai.
Mais j'aurais préféré quand même, au lieu de voir Mojo Rawley gagner, bon, c'est très bien pour lui, mais j'aurais préféré voir un Sami Zayn gagner qui était, lui, plus méritant, à mon avis.
Et peut-être aussi, mais alors c'est toute la difficulté de ce genre de match, c'est qu'il faut se faire une place parmi les 25 ou 30 catcheurs qui sont là, et ça sert aussi à faire émerger des nouveaux talents, tantôt.
Oui, c'est sûr que je suis d'accord, mais si, mettons, Zack Ryder n'avait pas été blessé présentement, je pense pas que Mojo Rawley aurait gagné. Fait que c'est un peu une déception de ce côté-là parce qu'ils l'ont fait gagner parce que son partenaire est blessé. Puis moi, c'est une déception quand ils ont éliminé Big Show puis Braun Strowman. Là, ça, c'était vraiment une grosse déception parce qu'après, il restait plus grand monde dans le ring. Surtout qu'ils ont ramené le mec de NXT là, qui s'appelait Big Damo sur le circuit indépendant. Donc, en fait, c'était assez étrange de laisser lui dans les trois derniers, sachant que je présume que la moitié du public, même peut-être même le trois quarts, ne connaissent pas c'est qui.
Ben justement, c'était aussi peut-être une volonté de le pusher un tout petit peu et de montrer en fait de le sortir de cette masse.
Et ils ont fait comme pour Corbin, hein. Ils ont fait comme pour Baron Corbin quand
Oui.
il a débuté à WrestleMania.
Et résultat, il a eu un match bon, qui est monté en pré-show, mais qui devait être en main card dans WrestleMania. Donc en soi, on n'était pas, enfin, c'est pas complètement scandaleux de faire gagner, on va dire, une nouveauté, un nouveau. Voilà. Ce qui est peut-être plus décevant, et Andy a mis le doigt dessus, c'est peut-être le dernier match du Big Show. Et pareil, alors d'après ce qui se dit en coulisses, qu'il a été extrêmement frustré par ce match, parce qu'a priori, bon, il s'est fait éliminer très rapidement, parce qu'il y a eu une. On va dire une collaboration pour le pour le mettre à... Ailleurs, c'est Braun Strowman qui élimine le Big Show, mais il est tout seul, Braun Strowman. Il me semblait qu'ils étaient plusieurs. Non, c'est Braun Strowman qui élimine.
Enfin, c'était plusieurs.
Ils étaient plusieurs. Bon, on le sait que dans ce genre de combat, ils construisent pour qu'il y ait une sorte de rassemblement, mais j'ai été extrêmement triste pour le Big Show. Moi, je le voyais gagnant en pensant qu'ils vont lui offrir un dernier titre, entre guillemets, même honorifique, pour sa sortie de carrière. Et finalement, le mec, il est en pré-show, il est au milieu de 30, il se fait éliminer au bout de 5 minutes, il n'a même pas le droit d'être acclamé, etc. On comprend pas trop, le gars en plus vous avez vu, il a teasé son retour en ayant fait du sport, etc. Je pense que l'affaire Shaquille O'Neal l'a un peu tué. Qu'est-ce que t'en penses, Anto?
Oui, c'était exactement la mort, si on veut, de son moment WrestleMania. Puis c'était surtout très décevant parce que moi je me mets à sa place là, je dis Big Show s'est entraîné pendant des mois et des mois pour affronter Shaquille O'Neal et finalement il y a un rôle mineur en kick-off. Puis il ne faut rien. Je pense qu'il devait être très, très frustré. Parce que moi, à sa place, je l'aurais été d'avoir perdu mon temps pendant des mois et des mois. Sachant qu'en plus, il annonçait que c'était sa dernière fois. Puis là, il n'y a rien eu. Là. C'est triste.
C'est triste. Il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Bon, ne le comparant pas à l'Undertaker, mais il y a un peu un deux poids, deux mesures dans l'entreprise. Bon, ce qui est peut-être un peu logique aussi. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une intervention de Rob Gronkowski, qui est tie-end aux Patriots, qui est un joueur de NFL. Alors, c'est assez marrant si vous avez l'occasion de regarder le pré-show sur Catch News ou sur YouTube de la WWE. Il doit intervenir et il y a une agent de la sécurité de la WWE qui s'occupe de la sécurité du ring, qui n'est pas au courant qu'il y a une intervention prévue et elle se précipite devant la séquence. Est un peu drôle, c'est déjà dès les premières minutes du show, c'est un peu botché. Pour terminer, Mojo Rawley qui gagne, bon, logique, hein, une sorte de logique finalement, sachant que notre ami Vince a envie de le mettre devant. On savait qu'il aimait beaucoup. Une preuve, s'il en fallait une autre, qu'il vaut mieux être dans les petits papiers du patron de la WWE. Troisième match, alors là c'est le match un peu surprise, c'est-à-dire qu'il a été sorti du main card, c'est le match intercontinental, enfin pour le titre intercontinental, Dean Ambrose, qui était champion, et qui le reste d'ailleurs, parce que je vous donne le spoil comme ça, et qui a affronté Baron Corbin. Alors, bon, il a payé, entre guillemets, le retour du match féminin SmackDown, hein, de la main card. Ils ont dit, bon, ben, lequel on va faire remonter en pré-show. Et c'est tombé sur lui. C'est la fin des haricots pour Dean Ambrose. Merci, au revoir, non? Anto?
Ben, en fait, je l'espère, là. Ben, c'est sûr qu'il va se passer de quoi avec le Roman Man roster, là. Mais je l'espère que oui, là, parce que le combat, il était assez ordinaire. On se serait cru dans un SmackDown normal, pour être franc.
Exactement, exactement. Est-ce que c'est le fait d'être remonté en main card qui les a réduits, en pré-show, pardon, qui les a réduits à faire un match aussi bidon? Parce qu'il faut, c'était nul. Il faut être tout à fait honnête. On s'attendait à quelque chose de violent, etc. Et on se retrouve avec rien, que dalle. Andy? Andy, on a perdu Andy. C'est possible qu'on ait perdu Andy. On a perdu Andy, je pense. Donc oui, effectivement, c'est un match qui est un peu particulier. On en parlait, il y avait un peu cette idée de peut-être essayer de reconstruire The Shield. T'en penses quoi, Anto, de cette reconstruction? Là, ça y est, Dean Ambrose a disparu complètement de la circulation.
Oui, mais je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faudrait continuer sur lui, puis quitte à le faire évoluer, puis à le faire passer, le passer à autre chose, puis ça va régler le problème.
Le problème, c'est que est-ce que c'est sa rivalité avec Baron Corbin qui l'a mis dans le trou, ou finalement il s'est creusé la tombe tout seul?
Moi, je pense que c'est plus au niveau de la rivalité, c'est ça qui s'est passé, là. Mais là, au moins, c'est justement le temps, mais qu'il passe à autre chose, puis qu'il puisse nous prouver, mais qu'est-ce qu'il peut faire autre que juste se lancer un peu partout, là.
Alors, je crois qu'il y a toujours des petits soucis de son. Bonjour Andy. Andy, tu nous as retrouvé ou pas?
Ouais, nickel. Non, ouais. J'avais juste entendu. Ça, ton micro, il avait coupé. Je sais pas si c'est pareil pour Anto. Moi, je t'entendais plus, donc
c'est voilà. C'est pas grave. L'important, c'est que les autres nous entendent. Alors, Andy, justement, est-ce que tu penses que c'est la fin des haricots pour notre ami Dean Ambrose?
Mais je pense déjà qu'ils vont le faire changer de personnage, ce qui serait un bon truc pour lui, parce que à force, son personnage devient quand même lassant.
Ouais.
Vraiment, c'est toujours le même. Après ce match, honnêtement, je l'ai pas trouvé très très bon. Honnêtement, c'est Ben, on s'attendait vraiment à un match très brutal entre les deux parce que on nous a vendu une rivalité très très brutale. Et là, on a eu un match vraiment.
On est resté sur notre faim. C'est-à-dire que voilà. je pense qu'il y avait, ils ont peut-être même, il a même Dean Ambrose, je parle de Dean Ambrose, il a même, peut-être même fait éclater un peu sa frustration d'être remonté aussi haut dans la carte, mais même se retrouver en pré-show. Lui qui était prévu, pareil, toujours dans la main card, je pense que ça a dû jouer dans la qualité in-ring aussi et dans la volonté. Baron Corbin, entre guillemets, c'était son premier à cette manière. Enfin, non. Non, pardon, c'était son premier match à WrestleMania, seul, en solo, pour être honnête, vu qu'il a gagné la Battle Royale l'année dernière. Mais lui, entre guillemets, bon, c'était, on lui offrait déjà, on va dire, une visibilité. Mais pour Dean Ambrose, on va être honnête, ça enterre complètement l'idée d'un retour du Shield. Andy, c'est toi qui, je crois, qui pronostiquais un retour du Shield, et t'aimerais voir le Shield revenir. Dean Ambrose n'existe plus. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est compliqué de faire venir Seth Rollins et Roman Reigns, avec chacun leur storyline qui ont super bien marché, ensemble.
Ouais, bah après, bon, le retour du Shield, à mon avis, c'est juste un fantasme, mais je pense aussi, je suis d'accord avec toi, je pense que ça ferait pas du bien à Seth Rollins et Roman Reigns, parce que, bon, c'est vrai qu'eux, ils ont quand même un personnage, voilà, et Dean Ambrose, c'est vrai que maintenant...
Voilà, alors il va falloir voir, alors je pense pas qu'il va se faire virer de la société, hein. Il faut pas non plus, on en est pas là, mais il va falloir qu'il se reprenne très sérieusement, et dans la prochaine storyline, et même en in-ring, il va falloir qu'il montre autre chose, parce que là, sinon il perd à sa perte, enfin il court à sa perte, hein. on va le voir de moins en moins sur les écrans. Bref, voilà, le pré-show qui a duré quand même quasiment 2 heures, il y a eu 3 matchs, une qualité in-ring assez moyenne finalement, il n'y a que le premier match des Crazy White qui a un peu sauvé, un pré-show qui ne servait pas à grand-chose, pour être honnête, comme d'habitude, Anto.
Exactement, mais là, il ne servait pas à grand-chose comme d'habitude, là, mais je pense que là, c'était peut-être une coche pire face à Big Show, puis la déception de Braun Strowman, là, je pense que c'était une coche pire que d'habitude.
C'est ça, c'est ça. Le bilan du pré-show, très rapidement, Andy. D'accord. J'aime bien. Je pense qu'il y a vraiment des soucis sur la connexion, c'est pas grave. On va commencer par le premier match en carte principale. Alors, on a commencé par un match qu'on pensait voir beaucoup plus tard dans la soirée, un Shane McMahon versus AJ Styles. Voilà, c'était un match aussi qu'on attendait un peu violent, ou du moins avec des sorties hors de la zone du ring, avec des spots spectaculaires, et finalement rien, c'est ça en gros. Anto.
Ouais, exact, rien là, mais comme j'avais dit en prédiction, un match solo avec Shane McMahon, ça l'annonçait rien de bon comme il n'y avait pas d'armes pour lui à utiliser, donc c'est vraiment juste l'aspect technique. Et en fait, on a vraiment vu, ben en fait, oui, il a bien performé, là, mais c'est sûr que contre AJ, c'était pas génial pour lui.
C'était pas génial. Moi, honnêtement, j'ai été extrêmement déçu de pas avoir un énorme spot. Mais alors, est-ce qu'il n'avait pas placé la barre tellement haute l'année dernière avec ce saut au-dessus de la cage de l'Insel, hein, c'est ça, avec l'Undertaker. Est-ce qu'il n'avait pas placé le spot tellement haut que finalement, n'importe quoi qu'il aurait fait, on aurait été déçu? Anto, t'es là, hein. Vu qu'on est que tous les deux.
Oui.
Ah, Andy est revenu, parfait.
Quel souci de connexion.
Ah, le souci de connexion, ouais, voilà. Putain, je pensais qu'à ouais. quand même, il pourrait balancer un peu de thunes pour essayer de te balancer de la connexion. Donc justement, oui, est-ce que... Alors, Anto va quand même répondre à la question. T'en penses quoi, justement? Est-ce que, justement...
Oui, le spot, le spot de l'an dernier. Oui, c'est sûr que le spot de l'an dernier, ça lui a donné une grande visibilité. Mais encore une fois, là, je pense que malheureusement, vu que son nom était McMahon, il a pu se faire une place dans le combat. Puis,
tu crois que c'est que son nom qui lui a permis de venir à un match à WrestleMania, même sans spot, même sans condition physique, même ça?
Ben, je pense que oui, là, parce que pour être franc, c'était pas beau à voir à 100%. Là, puis AJ aurait pu être dans un meilleur combat, qu'il aurait plus avancé, puis ça aurait été mieux pour tout le monde, je pense.
Effectivement, et puis on sait que la construction de la storyline a s'est fait en 3 semaines. Donc oui, peut-être qu'il y a eu une volonté aussi de Vince McMahon et de la société de WWE de mettre le fils McMahon au centre du ring. C'était peut-être une demande. Mais honnêtement, si c'est pour faire ça, il peut rester chez lui, quoi. Hein, on peut être honnête. Andy, sur ce match.
Bah moi déjà, je suis pas d'accord avec Anto parce que moi je trouvais que ce match était bien, il y avait beaucoup d'action même. Et je suis pas d'accord avec la plupart des gens aussi qui disent que c'est parce qu'il s'appelle Nick Mound qu'il a été dans le match. Je pense aussi qu'il y a eu une volonté de Shane d'y aller quand même.
Ah
C'est
ben non, mais
pas
bien
parce que.
entendu, bien entendu. Oui, ils lui ont pas mis un couteau sous la gorge, hein, ça, je suis
Oui,
d'accord.
je sais. Mais je suis même sûr que c'est lui qui a demandé pour aller faire le match. Je suis sûr que c'est pas Vince, il a dit comme ça, tu t'appelles Nick Mound, on va quand même te mettre dans ce match ou autre. Voilà,
Ouais.
c'est pas. Y en
Ah,
a qui
alors,
disent que c'est à cause de ça.
ouais.
Je suis pas trop d'accord avec ça.
Oui, Anto, t'allais intervenir.
Ouais, justement, Andy, mais t'as dit les mots-clés. Shane l'a demandé. Donc, je pense que c'est ça aussi le problème de ce côté-là.
Mais après, en soi, on s'en fout qu'il soit dans le. Non, mais soyons tout à fait honnêtes. Si il obtient un match parce qu'il s'appelle McMahon, en fait, on s'en carre un peu. Si le résultat, c'est que c'est un bon match avec des spots spectaculaires qui se donnent à fond, etc. Mais là, on avait vraiment l'impression que c'était vraiment du job, quoi. Enfin, j'exagère, mais il était là, il faisait un peu son combat. AJ essayait techniquement de relever un peu le niveau, lui. Mais il manquait quelque chose. On disait, ah oui, ce match, au moins, on n'a pas perdu du temps à le regarder, quoi. C'est un peu ce sentiment-là. En fait, je pense qu'il y aurait eu des spots impressionnants, on aurait été impressionné par Shane. Je pense qu'on ne se serait même pas posé la question de savoir pourquoi il était dans la carte. Et là, vu que le match est assez décevant dans sa. Il n'est pas nul, hein, mais est assez décevant dans sa totalité, eh bien, on se dit, en fait, il a eu ça dans l'idée, quoi. Concrètement. Et qui c'est qui gagne AJ Styles, ce qui est logique. Shane McMahon va prendre un peu de repos, il fait un ou deux matchs par an, et puis merci, au revoir, c'est ça. Anto.
Oui, ça au moins c'était logique, par chance. Parce que si Shane gagnait, là, ça c'était la honte pour toute la carrière de AJ
Et
Styles,
oui,
t'en
c'est ça,
conviens, je
ils
crois.
essaient de le monter, c'est Shane McMahon qui fait deux matchs par an qui est là pour le battre. C'est vrai que c'est pas très logique, pas très logique. Andy, sur la victoire de AJ Styles, logique.
Ah bah oui, très logique même, parce que c'est vraiment Anto l'a dit, s'ils auraient fait en plus de ça gagner AJ Styles, Shane McMahon, je veux dire. Là, vraiment, AJ Styles, ça serait du foutage de gueule pour lui quand même. Hein. Parce que
Exactement.
June, il le vire du match de championnat du monde poids lourd de la WWE, qui aurait bien pu être meilleur s'il y aurait été dedans. Et en plus, il l'aurait fait perdre. Là, ça aurait
Oui,
quand même
c'est
été
vrai que
un
ça
peu
aurait
du
été un peu
foutage de gueule.
n'importe quoi. Et là, peut-être qu'on aurait pu crier effectivement au favoritisme. On
Là,
passe
ouais.
au second match du show principal. C'est le match pour le championnat des États-Unis qui était opposé, pardon, Kevin Owens à Chris Jericho, qui était champion au moment de l'arrivée sur le ring de WrestleMania. Kevin Owens récupère le titre. Victoire que notre ami Chris Jericho avait plus ou moins spoilé quelques heures avant dans une interview en disant je me retire des rings pour aller enregistrer un album de mauvaise musique et avec son groupe et Fozzy. Et finalement, on se retrouve avec un match. Est-ce qu'il vous a déçu ce match? Andy, qu'est-ce que tu en as pensé de cette confrontation Kevin Owens Chris Jericho?
Alors déjà, je trouve très bête que Chris Jericho ait quand même un peu spoilé la victoire et il nous spoil aussi un peu le et il nous spoil un peu le résultat aussi à Payback du coup, hein.
Ben
Voilà.
de fait, oui.
Ouais. Mais sinon, ce match était très bon techniquement. Après, il y a eu beaucoup de brutalité, beaucoup plus que dans Dean Ambrose Baron Corbin. Et puis on pouvait s'attendre à ça avec Kevin Owens, Chris Jericho. Là, ils nous ont vendu une grosse rivalité qu'ils ont bien mis après dans le match quand même. Ça a bien été montré. La fin un peu décevante quand même. Le powerbomb dans le coin du ring pour finir le match. Bon, un peu décevant quand même. Moi, je m'attendais à une autre fin. Mais bon,
Et
après,
victoire de
voilà, il y a eu
Kevin
quand
Owens,
même.
alors logique, hein,
Ah
c'est ce qu'on disait. Hein.
oui,
Ouais,
logique, bah oui,
vu le départ de
forcément.
Chris Jericho, enfin le départ, la pause de Chris Jericho. Anto, sur ce match.
Oui, exact. Donc, moi aussi, j'ai bien aimé le combat, pour être franc, mais les deux ont fait une bonne performance, là, mais je trouve juste ça dommage qu'ils continuent la rivalité, mais qu'ils l'étirent jusqu'à
Ah
Payback pour
oui,
la
parce qu'il
terminer à
fera la
Payback,
pause
là.
à Payback, de toute façon, après Payback.
Exactement, je pense que ça aurait été mieux de terminer ça justement à WrestleMania. Merci, bonsoir, merci Jericho, puis c'est terminé pour quelques mois, là.
Oui, mais en fait, je pense qu'il a dû signer le contrat jusqu'à fin janvier, donc à partir de ce moment-là, jusqu'à fin janvier, jusqu'à fin avril, donc il est là encore pour quelques semaines et voilà, il va peut-être faire la tournée européenne, etc. Donc, c'est pas plus mal pour les fans. Moi, il y a une séquence qui m'a plu dans ce match. Le match est plutôt bon. Il y a un in-ring. De toute façon, les deux sont très bons. Donc, il y a aucune raison. Il y avait une rivalité. Il y avait une vraie storyline. Il y avait de la psychologie, etc. Il n'y avait rien de particulièrement spectaculaire. Et c'est un peu le regret que j'ai sur ce WrestleMania. On en parlera à la fin. Moi, ce qui m'a plu, c'est cette histoire de doigts sur le ring, sur les cordes du ring qui permettent de casser le compte de 3 de Chris Jericho sur Wentz. Dans cette séquence, le plan en plus est magnifique, qui est fait par les réalisateurs de WWE, enfin du moins les cadreurs, c'est que vous voyez toute la psychologie et la force de Kevin Owens dans juste ce geste-là. C'est-à-dire que le mec, il a un charisme de fou rien qu'en mettant un doigt. C'est-à-dire que en soi, des catcheurs qui arrivent à toucher la corde au 2-2 du compte de 3, c'est, on va dire, assez commun. Mais là, rien qu'un doigt, il y a un côté effectivement un peu biblique, un peu touché par la grâce qui m'a beaucoup plu. Et je trouve que c'est finalement, ça représente très bien ce combat, c'est-à-dire plutôt maîtrisé et avec une psychologie énorme. Anto.
Oui, je te rejoins à 100% de ce côté-là, là, parce qu'encore une fois, avec Kevin Owens, il connecte toujours avec la foule avec aucun problème.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il a une force de... Voilà, quoi qu'il arrive, son personnage est assez fort, il n'en fait pas des caisses, il y a de la psychologie et il est bon in ring. Andy, un dernier mot sur ce match.
Ah bah ouais, je suis d'accord avec vous.
Merci. Mais en fait, je te donne la parole pour que tu dises que tu es d'accord avec moi. C'est pour ça que...
Ouais, voilà.
Voilà. Donc, Kevin Owens, qui est nouveau champion, qui repart de WrestleMania, comme ça, là, victorieux. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, de cette carte principale. Ce WrestleMania a beaucoup duré. Il faut savoir que les matchs, là, c'est tous du quart d'heure, 20 minutes, hein, minimum. Même ceux du pré-show. Donc c'est des matchs qui sont relativement longs. Et là on passe sur le premier match féminin de la soirée. C'est le Fatal 4-Way Elimination Match. Bayley, qui était championne, qui s'est confrontée à Nia Jax contre Sasha Banks versus Charlotte. Une analyse, Bayley remporte, continue à être championne. Une analyse sur ce match, finalement pas de surprise, Nia Jax a dominé et finalement elle perd. Andy.
Bah moi déjà j'avais annoncé Nia Jax gagnante en domination, bien sûr, donc voilà, un peu quand même dégoûté, mais honnêtement je m'attendais vraiment pas à ce que Bayley gagne.
Tu pensais quand pas qu'elle allait garder son
non quand c'est... quand j'ai vu Nia Jax être éliminée, je me suis dit Charlotte ou Sasha Banks vont repartir gagnante, et il y en a une des deux là qui va prendre le titre, hein. C'était obligé pour moi, et là voir Bayley gagner quand même ça m'a plu.
Ça t'a plu, mais c'est une continuité, on revient à ça. Anto, justement, sur cette domination de Nia Jax, est-ce que c'est pas tout systématique, quoi ? Finalement, est-ce que c'est pas un peu chiant de se retrouver toujours avec les mêmes physionomies de match quand elle est dedans, quoi ? Elle mérite mieux, non ?
Oui, je pense que oui, mais en même temps, c'est son rôle qu'elle a présentement. Puis pour qu'est-ce qui est de Bayley, mais comme que j'avais dit dans le show de prédiction, là, je pense que c'était trop tôt pour la faire gagner, là, mais au moins ça solidifie son règne de championne. Là, fait que j'espère que c'est sur la bonne voie puis qu'ils vont le garder pour encore un bon nombre de temps. Là. Mais c'est ça.
Effectivement, ça aurait pu être aussi une belle chose de voir Charlotte gagner. Ça aurait été un bel hommage pour son père qui était dans les tribunes. Il faut savoir que c'est là où s'est terminée la carrière contre Shawn Michaels. Ric Flair et Shawn Michaels se sont affrontés pour la dernière fois, et où Ric Flair est parti des rings de la WWE. Finalement, victoire logique de Bayley, Anto.
Oui, logique, mais encore une fois trop tôt, parce que je pense que ça aurait été mieux de la faire attendre une autre année puis créer ce moment-là l'année prochaine à WrestleMania. Mais en même temps, mais tant mieux pour elle, là. Fait qu'au moins c'est une championne officielle.
C'est ça.
Puis c'est la première fois qu'elle a gagné de façon propre, si je me trompe pas. Là.
Il me semble aussi.
Donc tant mieux aussi, ça solidifie vraiment pourquoi elle est la championne, puis pas parce que Sasha Banks était d'être derrière elle pour l'aider. Là.
Et justement, Nia Jax, pour terminer sur elle, est-ce qu'elle n'est pas enfermée dans ce rôle de destructrice et finalement elle ne pourra pas être championne, ou si elle est championne elle le saura tard, parce que finalement, c'est pas le type de lutteuse féminine que la WWE veut voir. Andy.
Ah ben déjà, faut voir avec Braun Strowman, regardez. Il est dominant, et pour l'instant, il n'a eu aucun titre.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il fait très bien le taf, c'est tout, quoi.
Ouais, voilà. à mon avis, c'est juste ça. C'est tous les dominants, ils n'auront pas de titre avant, peut-être bientôt, mais pas pour le moment, quoi. C'est pas le moment pour eux. Je sais pas. Après, c'est la logique de la WWE.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils privilégient peut-être un peu le in-ring, etc. On leur a souvent reproché de mettre que des gros qui ne savaient pas catcher pour, comme champion. Aujourd'hui, et même chez les femmes, on mettait la plus jolie, pour le coup, même si bah, il est très mignonne. Hein, mais bon, on mettait la plus jolie avant que ça soit la plus dominante sur le ring. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi un changement de stratégie aussi dans ce que veulent faire nos amis américains sur ça. Alors là, on passe à la première surprise, on va dire, de la soirée. Bien sûr, Enzo Bicas arrive. C'est pour le match, bien entendu, du Raw Tag Team Championship, pardon, toujours en Fatal 4-Way. Donc, deux Fatal 4-Way qui est à la suite. Hein. Donc, c'était à la base Enzo Amore et Bicas versus Cesaro et Sheamus versus Karl Anderson et Luke Gallows, qui était champion à ce moment-là. Et débarque sur le ring, annoncé par nos amis... du New Day, hein, on en parlera tout à l'heure, très rapidement, ils annoncent le retour des Hardy Boys. Hein. Bon, voilà, le match débute, et comme de par hasard, les Hardy Boys gagnent. Alors, on va faire ce débat en deux choses. On va d'abord parler du match en lui-même, qu'est-ce qu'on a pensé, après on va parler des Hardy Boys, parce que c'est quand même une information importante. Anto, sur ce match, de match à l'échelle hein, d'ailleurs, hein, un Fatal 4-Way, match à l'échelle, pour le titre de champion.
Exactement, je pense que c'est le seul combat que j'ai dit que j'en aurais demandé plus. Je pense qu'il était peut-être même un petit peu trop court pour qu'est-ce qu'on va faire. Là. Donc en fait, ça s'est déroulé très rapidement. Là. Bing bang, c'est terminé. Hein.
La fin n'est pas du tout spectaculaire en plus. Il faut être tout à fait honnête.
Exactement, donc en fait, c'est une fin traditionnelle qu'ils ont faite. Donc c'est sûr mais qu'il n'y avait rien de nouveau. Mais par contre, je crois que j'en ai demandé un petit peu plus pour avoir plus de tout le monde. Il y avait beaucoup de talent sur le ring en même temps. Mmh. Je crois pas que tout le monde s'est fait valoriser assez.
Je suis d'accord. Andy?
Bah déjà, ça a été un match quand même très technique. Mmh. Faut savoir, après je pense que c'est parce qu'il y avait les Hardy Boys.
Oui.
Et très bon match. Moi, j'ai aimé la victoire des Hardy Boys. Bon, après, on s'y attendait. S'ils étaient de retour, voilà, on s'y attendait.
Oui, c'est ça. On va pas les faire signer pour les faire éliminer, pour les faire perdre.
Mais quand même un peu déçu pour Enzo Amore et Big Cass.
Ils auraient peut-être mérité. C'est là où je pense qu'il pourrait y avoir. Non, mais si on a le débat pour Shane McMahon versus AJ Styles, on peut avoir ce débat-là aussi pour le retour des Hardy Boys. Pourquoi les Hardy Boys? Mais c'est contractuel, hein, on n'est pas fous. Et puis ils savent que ça fait vendre les Hardy Boys. On n'est pas fous. Vu les réactions qu'il y a eu, bon, c'était une surprise, sans vraiment être surprise, qu'ils reviennent. Vu qu'ils ont été chopés en photo quelques heures avant WrestleMania dans les voitures officielles. Bref, il y a eu tout le feuilleton sur la signature du contrat. Est-ce qu'ils arriveront avec le personnage Broken ou pas? Finalement, ils n'ont pas réussi à avoir les droits. D'après ce que j'ai compris, voilà, et puis peut-être que ça ne correspondait pas trop à la WWE aussi, ces personnages-là, un peu trop dark. Et finalement, est-ce qu'on peut pas reprocher à ces stars-là de venir signer, de venir voler le titre, mais sans avoir vraiment travaillé pour l'avoir, quoi? C'est peut-être un peu ça ce que je reproche aux Hardy Boys. C'est bon, moi j'ai jamais été très grand fan des deux, hein, c'est pas voilà, moi j'ai toujours dans la tête tout ce qu'ils ont fait de mal pour le dans leur vie. Enfin, je les juge pas moralement, je parle juste au niveau du business, hein, moralement ils font ce qu'ils veulent, hein, mais effectivement il y a un peu ce côté là, c'est toujours un peu la difficulté de se dire que vous faites signer des gros stars, ils vont obligatoirement gagner des titres. Qu'est-ce que t'en penses, Anto? C'est un peu automatique, non?
Peut-être, là, mais oui, c'était automatique, mais par contre, c'était mérité dans le sens que eux, ils ont continué de travailler chaque jour à chacun, même s'ils n'étaient pas à la WWE, ils catchaient quand même dans diverses fédérations, puis ils continuaient quand même de se prouver, c'est ça, sans problème. Là. Donc, je pense que c'est quand même une victoire méritée, mais des ceintures.
Mais quand tu vois que t'es des équipes que ça fait plusieurs années au moins un an qui se cassent le cul tous les jours au micro, qui fait le tour des États-Unis, etc. Oui. Ils se pointent, les autres se pointent avec c'est des bons lutteurs. Bon, voilà, hein, faut pas le dire, oui. Ils font des spots impressionnants, etc. Mais finalement, est-ce qu'ils se font pas voler? Est-ce que les équipes qui sont là à l'année ne se font pas voler comme un Goldberg qui vient de détruire un Kevin Owens, quoi? Il y a un peu ce côté-là.
Oui. Ben oui, puis non. Oui, parce qu'il était pas à la WWE, puis non, parce qu'eux aussi faisaient le tour des États-Unis à chaque semaine.
Oui, non, mais tu comprends ce que je veux te dire. Quand tu donnes beaucoup à une entreprise et finalement on attend qu'on fasse signer les nouvelles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même 2 ou 3 ans, les Hardy Boys, c'était les shots de Vince McMahon. Hein. Il n'y avait plus personne qui les voulait. Ils étaient drogués, alcoolisés, tout ce que tu veux. Moi, je me rappelle des matchs qu'ils ont fait à la TNA où Jeff Hardy a dû être arrêté parce qu'il était complètement déglingué. Je pense qu'on oublie beaucoup de choses. Ça n'empêche pas que c'est des bons lutteurs, mais même d'un moment, c'est pas des gens fiables. Et quand tu, voilà, moi, ça me dérange toujours un peu quand tu vois voilà, les équipes qui étaient là. Un retour des frères Hardy, pourquoi pas? Les faire gagner parce qu'il faut montrer leur pop, etc. Ça me dérange toujours un peu. Ça aurait pu attendre un peu qu'ils se refassent la main, etc. Là, on les balance. C'est juste du marketing. Et finalement, tu baises les autres, quoi.
Ouais. C'est un peu le... Ouais, ben là, c'est sûr que pour ça, ben, je te rejoins un peu. Puis si on regarde encore, il y a même pas encore un segment micro, là.
Ils le savent, hein, ils sont tellement mauvais, les pauvres garçons au micro, que c'est une catastrophe. Enfin, hors de leur personnage, mais... voilà, je trouve que c'est un peu facile. C'est un peu facile. Andy, on t'a retrouvé, je crois. Qu'est-ce que t'en penses?
Désolé.
Non, il n'y a pas de souci. Quel est le. C'est quoi le. Voilà, est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu injuste, finalement, ce retour et ce gain de ceinture? Ou pour toi, c'est totalement. Pour toi, peut-être qu'ils ont eu raison de le faire.
Non, ils n'ont pas eu raison. Moi, honnêtement, je trouve ça très injuste aussi. On est quand même content de les voir gagner, mais c'est quand même injuste. Pour eux, pour les autres catcheurs, je veux dire, parce qu'il y en a d'autres qui méritaient beaucoup plus. Et surtout, quand ils arrivent comme ça, c'est vrai que comme vous avez mis le doigt dessus, il faut se souvenir du passé quand même qu'ils ont eu avec la drogue et tout. Hein.
Voilà, mais c'est non, mais même, je vais te dire, c'est n'importe qui. Hulk Hogan, c'est pareil, il y a une affaire de sextape, on le vire complètement des trucs. Et puis finalement, si ça fait un peu de commerce, on le fait revenir. Why not? Le ouais, commerce, ça reste ça. Le commerce, mais toujours un peu compliqué.
Mais ce qui est le plus dégoûtant avec la WWE, et ça, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est-à-dire que les catcheurs qui font vendre, quand il y a un souci, ils les gardent.
Oui, bah, non, mais et alors que les business, autres, on n'est pas, il faut être logique. Hein.
Petit catcheur, au lieu de les protéger comme genre Seth Rollins quand il y a une histoire aussi qui est sortie sur lui, ils sont virés, ils sont directement écartés.
Ouais.
Donc c'est quand même un peu injuste, je trouve. Après, bon, ça fait vendre.
Après, ça fait vendre, on va pas non plus, oui, c'est ça, on va pas faire non plus les grenouilles de bénitier. Mais en parlant purement de lutte et de catch, et même, voilà, c'est très bon pour le show, c'est mauvais pour le business. Enfin, c'est très bon pour le show, c'est bon pour le business. Mais moi, en tant que fan et qui suis la WWE, finalement, le retour des Hardy, c'est sympa pour une belle pop, mais le reste, je m'en fous. Soyons très honnêtes, je m'en fous complètement. Donc, ils repartent avec le titre de champion. Ils sont nouveaux champions, cette fois. C'est la 7e fois, donc c'est quand même quelque chose à noter. C'est pas mal hein, quand même. Ils commencent à avoir une petite carrière à la WWE et ailleurs un peu conséquente. On passe au prochain match, qui était le match mixte entre John Cena et Nikki, c'est ça ouais, Nikki, je me retrouve toujours, contre The Miz et Maryse. The Miz, Maryse, Nikki Bella, John Cena et Nikki Bella qui gagnent. Match à oublier, Andy, non?
Ah oui, quand même. Oui, beaucoup même.
On s'en fout.
Celui-là, moi, il restera pas gravé dans les matchs de John Cena. Hein.
C'est terrible. Alors, on comprend pas trop parce qu'il y avait quand même John Cena n'est pas mauvais sur le ring. The Miz non plus.
Mais on se souvient quand même des rivalités John Cena et Le Miz.
Oui, qui étaient plutôt des bons matchs, effectivement.
Ah oui. Oui. Et quand même, et là, il nous sort un truc, c'est vraiment. Le seul truc qui a fait remonter tout ça, ça a été la demande en mariage à la fin.
Quoi. On va en parler jusqu'après, mais. Finalement, c'est hors, hors in-ring, quoi. C'est hors ring. Anto.
Oui, je vous rejoins là-dessus, mais par contre, j'étais très heureux de revoir Maryse sur le ring. Oui. Et j'espère qu'on va la revoir, pour être franc. C'était un retour dans le passé que j'ai bien aimé voir, par contre. Là. Mais très déçu du résultat. Là. Par contre, là, les deux gagnent, John Cena et qui gagnent, puis après, ils se barrent, puis on sait même pas c'est qui. Ça, vraiment, je déteste ça. Quand
mais c'est un match promo. Hein. Il faut savoir que c'est un match promo. C'est un match promo pur.
Oui, mais c'est le plus grand show de l'année, puis quelqu'un gagne, puis boum, il s'en va en vacances. Non, là, c'est ça brise tout, parce que là, tu te retrouves avec Miz, parce que là, t'as Miz puis Maryse, mais qui savent plus quoi faire, là. Ils sont juste tout seuls dans le show, puis pouf, leurs adversaires sont plus là.
Mais voilà, encore une fois, il faut quand même être aussi très, très transparent. C'est un match qui a été construit pour faire la promotion de Total Divas, c'est ça?
Oui,
c'est ça. De Total Divas, là, ils vont suivre. Alors, il y a eu une demande à mariage après de John Cena. Bon, en même temps, pour un catcheur professionnel et un gars comme John Cena, c'est peut-être un des endroits les plus symboliques pour demander sa femme en mariage. Après, on sait que c'est du spectacle. Hein. Elle était au courant, la pauvre petite. Hein. Si nous étions au courant, elle aussi. Hein, soyons un tout petit peu honnêtes, c'est que ça devait être écrit quelque part. Mais bon, en soi, j'imagine que leur amour est vrai. Voilà, mais il n'y a pas de souci. Mais c'était vraiment un match de promotion, comme si on faisait de la pub pour McDo, quoi, ou pour un site de rencontre. C'est-à-dire qu'on a un peu rien à carrer, quoi. On venait pas voir ce match pour voir des gens bien catchés. Il faut être honnête. Anto.
Ouais, exact. Ouais. Là, c'est sûr que là-dessus, je te rejoins. Là. C'était un match promotionnel, là, mais quand même, le résultat puis le sort aurait pu être mieux.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, après, on leur souhaite plein de bonheur, hein, mais c'est vraiment un match. Ça aurait été une bande annonce pourrie. Ça aurait été intéressant, quoi. Dans l'idée, mais voilà.
Je peux juste dire un truc, quand même, pour ce match. Personnellement, j'aurais préféré qu'ils fassent plutôt un segment entre les quatre, s'il faut, ou autre. Mmh. Parce que c'est vrai que c'était un match promotionnel et qu'ils laissent un Big Show Shaquille O'Neal, par exemple.
Oui, mais Shaquille O'Neal, tu as compris que c'était plus la faute de Shaquille O'Neal que de nous. Enfin, que du Big Show.
Ou qu'ils mettent un match pour le Big Show pour une fin de carrière, au lieu de mettre un match comme ça qui n'a servi à rien.
Oui, un segment, c'est vrai, tu aurais raison, un segment aurait été amplement suffisant. Je suis complètement d'accord. On enchaîne sur le prochain match. Alors là, c'était le match non sanctionné de la WWE. Seth Rollins, Triple H. Alors Triple H, le patron de Seth Rollins. Seth Rollins qui a été blessé, qui revient. C'est formidable, incroyable. Le match, bon, hein, Triple H. J'adore Triple H. Hein. Je suis un grand fan de Triple H, de sa carrière et tout. Encore une fois, un des pires matchs de la soirée. C'était d'un long... Je ne sais pas ce que vous en pensez, Andy, sur ce match, mais c'était catastrophique. Ah ben... Je me suis fait chier comme c'est rare. Et puis c'était tard déjà. Putain, c'était tard.
Ouais, déjà. Oui, quand même. Ouais, mais ouais. On l'avait déjà prédit, ça. C'est Triple H, quoi. Il a fait ses années, quoi. C'est plus le même.
Pff, c'est long. C'est long. Et puis, pour un match non sanctionné, putain, mais allez-y, les mecs, quoi. Et si c'est pour nous sortir trois chaises et une non mais c'est vrai et une table, bon les mecs, t'as pas besoin de faire une stipulation aussi importante, tu mets un truc sans disqualification, pardon, et voilà, t'y vas, quoi. Anto.
Oui, puis en fait ça a été exactement comme qu'on avait tous pronostiqué, un combat qui allait être trop long. Puis c'est sûr que, comme vous avez dit, les armes, c'était décevant, c'était non sanctionné, mais c'était presque un single match. Mais le seul point positif de ça, là, c'est qu'au moins Seth Rollins sort comme un vrai face.
Oui.
Et au moins, il faut que ça continue, mais vers ce sens-là. Puis enfin, la foule pourra l'acclamer, mais comme qu'il faut, puis lui pourra en profiter. Là. Je pense que c'est le seul point positif.
C'est le seul point positif. Andy, c'est vrai que. Tu l'as dit, Triple H, on s'y attendait, etc. Une autre stipulation aurait été mieux, ou peut-être des spots plus impressionnants. Alors, est-ce que... Alors, il y a peut-être aussi une raison qui est tout con, c'est peut-être que Seth Rollins n'est pas totalement remis. Ça, c'est possible aussi. Hein. Que le gars, ils l'ont fait revenir sur les rings très tôt pour qu'il fasse WrestleMania, et que le mec, il est sous antalgique et compagnie, et qu'il est incapable de faire trois mouvements sans se faire mal, quoi. C'est possible aussi. C'est peut-être une logique aussi à ce niveau-là. Andy, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, à mon avis, c'est même sûr. C'est peut-être pour ça aussi, parce que Seth Rollins, on le connaît. Quand il y a des matchs comme ça, quand même, il y va quand même.
C'est ça, c'est pas
le même qu'on a eu. Je pense aussi que c'est à cause de la blessure. Mais après, on est quand même content du résultat. Je pense que quand même, ils ont mis longtemps à l'installer en face pure.
Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est vrai que ça entérine bien le côté face de Seth Rollins. C'est ça, ouais, pour le coup, même, ouais. c'est voilà. Et Triple H continue, voilà, à être dans ce personnage ambivalent, bon, le heel, hein, mais assez ambivalent. Ouais, vas-y, je t'en prie.
Si je peux juste dire un truc en plus, je vais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit qu'ils avaient sorti des chaises et des tables.
Ouais.
Il faut savoir, faut quand même se rappeler que c'est même pas un des deux catcheurs qui est passé à travers la table, c'est quand même Stéphanie McMahon.
Ça, c'est le seul spot un peu marrant du show.
Ouais, quand même.
Mais presque attendu, parce que je crois que l'année dernière, il y a toujours...
Elle s'est pris un spire.
Donc, c'est un WrestleMania, une Thanos pour elle. La meuf, elle débarque, c'est juste pour se faire taper, quoi. Elle est plus là. Donc voilà, non, bon, mais c'est vrai, hein, je pense qu'ils veulent construire une sorte de running gag comme ça sur les prochains matchs où Stéphanie se prendra un coup de chaise, se prendra une table, se prendra un spire. Un peu, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est un peu pour habiller le match, hein, c'est parce que sinon, il n'y a rien qui se passe, quoi. Anto, pour conclure sur ce match et cette victoire de Seth Rollins.
Oui, je pense que je dois que tu as tout résumé, là. C'est Stéphanie la blague, puis Triple H, mais qu'il essaie de faire, mais qu'est-ce qu'il reste à faire, là? C'est un peu malheureux.
C'est un peu malheureux. Bon, allez, on passe au prochain match. Alors là, c'est le titre pour le championnat des quoi? Non, si, non, championship, mauvais championship, pardon. Randy Orton, Bray Wyatt qui est champion. Randy Orton gagne le titre. Alors j'ai été extrêmement surpris parce que dans les prédictions, et vous pouvez toujours retrouver ce podcast qui était toujours disponible, qui marcherait bien d'ailleurs, j'avais dit que je voyais pas remettre champion Randy Orton, et bien je me suis trompé. Mais pour moi, ça casse complètement la dynamique de Bray Wyatt, Andy.
Déjà, Bray Wyatt, quand même, faut savoir que son personnage, il était fort et tout, donc là, ils l'ont quand même un peu cassé, le personnage, parce qu'on s'attendait vraiment à autre chose. Le match, complètement ridicule, non mais honnêtement.
Alors, vas-y, pourquoi il était ridicule, ce match? Parce que moi, j'ai une opinion assez tranchée aussi sur ça.
Les choses quand même, qu'ils apparaissaient dans le ring comme ça, qui faisaient soi-disant flipper Randy Orton, qui faisaient faire flipper Randy Orton et tout, c'était complètement ridicule. Ce match était très lent, il n'y avait pas beaucoup de technique non plus. Randy Orton, je suis content parce que j'adore quand même Randy Orton, mais bon, j'aurais quand même voulu voir Bray Wyatt encore champion parce que voilà quoi.
Après, c'est de manière, c'est censé être la fin d'un chapitre, hein, c'est ce qu'on revient à ça, on a un peu ce qu'on a dit. Il y a peut-être cette logique aussi. Ça continue, c'est-à-dire ils le font perdre et ça continue. C'est vrai, en fait, c'est une fermeture de chapitre sans vraiment l'être. Anto, et notamment sur l'apparition des vers de terre et compagnie au centre du ring, qu'est-ce que tu en as pensé de ça?
En fait, je vous rejoins exactement, là, mais qu'est-ce qui est dommage, c'est que comme on l'avait dit dans les prédictions justement, vu que c'est Randy Orton qui a gagné, toute la longue rivalité qui a été construite, une rivalité qui était très intéressante, où est-ce qu'il y avait de la nouveauté en faisant, je sais pas, là, brûler des maisons puis des segments qui étaient à l'extérieur du ring ou des coulisses, pour un résultat qui devient maintenant une rivalité inutile. Je trouve ça un peu triste de ce côté-là. Là. Je pense que, comme on avait dit, il fallait que Bray Wyatt gagne.
Il gagne ce titre. Effectivement, ça aurait pu redonner un souffle à cette rivalité, peut-être ramener jusqu'à Payback, et peut-être faire gagner Randy Orton à ce moment-là. Faire gagner Randy Orton là, c'est la 13e fois qu'il devient champion du monde, je crois, c'est ça, si je ne me trompe pas. Moi, je n'ai jamais trouvé les runs de Randy Orton champion bon. Alors, le gars est assez limité, donc voilà, il n'a pas une super empathie malgré tout dit. Il a du charisme, hein, il a beaucoup de charisme, etc. Mais il est bon, voilà, on voit que le mec il est rodé et que bon, il est là parce qu'il faut nourrir sa famille, quoi. Il a un peu rien à foutre, hein. J'ai un peu cette impression là. Et pour terminer, et après je te donne la parole, Andy, moi l'histoire justement des choses qui s'affichaient, j'ai pas trop compris que c'était fait censé faire flipper Bray Wyatt. Je pensais que c'était pour rajouter un peu du spectaculaire, etc. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée d'avoir fait ça parce que ça nous prouve qu'ils vont pouvoir utiliser les éléments du ring, notamment. Je faisais un Poisson d'Orville sur les hologrammes de Jeff Hardy et compagnie, mais pour moi c'est un peu le futur de jouer un peu sur ces côtés-là, entre le numérique, entre tout ça, et créer de nouvelles formes de rivalité, des rivalités qui pourront être ridicules, hein, c'est pas la question, mais je me dis c'est une évolution dans la forme du ring. On peut imaginer dans quelques temps, encore une fois, des apparitions un peu comme dans des jeux vidéo. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas inintéressant comme utilisation des images. Après, bon, le résultat vaut ce qu'il vaut, mais je trouve pas ça inintéressant. Andy.
Après, tu as dit les runs de Randy Orton en tant que champion sont pas très intéressants. Bon, c'est vrai. Oui. Ça dépend en fait. Parce que quand il est en L, je trouve qu'il est beaucoup mieux. Quand il a un personnage L, je
trouve vraiment qu'il est taré, etc. On se rappelle de quand il donnait des coups de pied dans les têtes, etc.
C'est vrai que quand il est en face, bon, il est chiant à mourir. On va pas se cacher.
On voit qu'il est pas sympa, le mec. Donc déjà à la base,
il aime pas les personnes.
Je sais pas s'il aime pas les personnes, mais je pense que le mec, voilà, il est là, il est dans le business, mais il n'a pas rien à foutre, quoi. Ouais. Du moins, c'est ce qui transpire. C'est peut-être pas le cas, mais on voit que oui, effectivement. Et puis, on n'a jamais vu Randy Orton en interview. Hein. Jamais. Après, jamais.
Après, ce qui est bête quand même, c'est que la WWE, je trouve qu'ils s'attachent trop aux anciens personnages. Ce que je vais dire là, c'est par exemple, ils ont donné un titre à John Cena. C'est-à-dire, il y a quelque temps contre AJ Styles. Et je trouve vraiment qu'ils s'attachent aux anciens. C'est-à-dire, ils ne mettent pas trop les nouveaux en avant. C'est-à-dire, ils ne les laissent pas trop se faire des preuves, quoi. Bray Wyatt, ils auraient dû le laisser continuer parce que Bray Wyatt, voilà, il n'est pas trop ancien non plus, on va dire, quoi. C'est...
Oui, c'est ça. Ça casse un peu la dynamique en tôt pour conclure sur ce match.
Ben, je vous rejoins exactement les deux. Là. Donc, je pense que justement que la dynamique est brisée. Puis même le personnage de Bray Wyatt, il a peut-être laissé sa peau en même temps.
C'est ça. Alors, ça, peut-être qu'ils vont essayer de reconstruire les trucs un peu pour Payback, mais c'est sûr que ça ne le met pas dans les meilleures conditions. On enchaîne. Ouais, Landy, si tu veux conclure rapidement.
Payback,
ouais.
Payback, c'est pas que pour Raw, normalement?
Bonne question. Anto, répond à cette question. Parce que,
Andy a eu la bonne réponse. Là.
Et donc, on ne le verra pas. Bon, ouais, d'accord, j'ai compris. En gros, je dis des grosses conneries depuis 10 minutes, c'est ça. Merci, d'accord. Mais non, tu vas voir, ils vont débarquer avec le check-up là, de la semaine prochaine. Tu verras. Hey, ne croyez pas. Je retombe sur mes pattes. J'en étais sûr. Peut-être que Randy Orton va être drafté à Raw. On n'en sait rien.
Exact, ouais,
mais ça serait interdit.
Oui, ça serait bête, mais bon...
Le titre universel qui est tout en rouge va aller dans le show bleu.
Mais oui, justement, ils aiment les couleurs. Écoute, c'est ce que tu veux. C'est pas... On enchaîne avec le match, un des matchs les plus attendus. Brock Lesnar versus Goldberg. Goldberg qui est champion. Qui est champion universel. Waouh, c'est beau, c'est fort. Bon, Brock Lesnar gagne. Match de 4 minutes 45, c'est le match le plus long qu'ils aient fait. Tous les deux. Quel est le verdict sur ce match, Anto? On va y aller rapidement parce que finalement, bon, le match.
Je pense que rapidement, ça aurait pu être pire. Puis au moins, la bonne personne qui devait gagner a enfin gagné. Là. Problème réglé pour Goldberg. Ciao, bye, merci. Là. Puis on a encore vu que malheureusement, que Goldberg ne veut pas faire grand chose.
Mais pas les. Brock Lesnar non plus. Hein. Bon, bref. Et Andy?
Bah honnêtement, on s'y attendait un peu. Spear, il y a eu que des prises de finition, quoi. Spear, Jackhammer, F5, oui, bon, allez, German Suplex aussi quand même. Mais après, je m'attendais pas quand même à ce qu'il soit comme ça. Je veux dire, ça s'est quand même bien enchaîné. Ils sont pas trop reposés quand même, mais bon, c'est vrai.
Bon, que en même temps, 4 minutes 45, les pauses sont limitées. Hein.
Mais après, ils sont vieux, hein. Ils sont pas très forts niveau in-ring non plus. Donc,
C'est une catastrophe. Bon, après, il faut être honnête. Il faut pas regarder ce match pour du in-ring. Il faut être tout à fait honnête là aussi. Mais je crois que c'est l'analyse qui a été faite sur Catch News par Romain, par Electronic 91. Il a dit effectivement, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu des matchs qui faisaient un peu rêver, mais dans la façon extraordinaire de mettre des mecs de 200 kilos chacun, enfin en gros, hein, 200 kilos chacun, qui ont des physiques hors normes, où tu sais que de toute façon, les mecs, t'y vas pas pour la technique, et de toute façon, il n'y en a aucun des deux, et qui sont là, ils vont se tabasser. Bref, ça ressemble à un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire que c'est les matchs que tu fais dans des jeux vidéo, tu mets deux bourrins qui se tapent dessus, et t'y vas pas pour la technique, et tu te vois qui est le premier qui est KO. Et c'est un peu se représenter là. Et puis il y avait l'image de Goldberg quand même qui revenait et tout, même s'il s'est fait huer. Bon, ça c'est toujours un peu compliqué, mais voilà. Finalement, le match, c'est un bon match. Là aussi, c'est un bon match promotionnel pour 2K. Regardez les matchs que vous pouvez faire sur 2K. On peut les faire aussi sur Linking de WrestleMania. Vous allez vous faire chier si ça dure plus longtemps. Là, on vous le fait 4 minutes 45. Il y a 3 coups. Brock Lesnar gagne. Goldberg, lui. A fait son dernier run qui a été une catastrophe, pas au niveau économique, mais sur le in-ring et sur la psychologie, et puis voilà, et puis tout le monde est content. Ça fait une superbe affiche à afficher à l'entrée du stadium, quoi. Anto.
Oui, c'est sûr que oui, là, mais par contre, je pense que les deux, quand même, ils sont mieux donnés, mais surtout Goldberg, parce que c'était sa dernière fois, parce qu'il a fait son speech d'adieu lundi dernier.
Oui.
Donc, il savait que c'était sa dernière fois, là, puis je pense que ça paraissait aussi, mais dans ses yeux, avant que le combat commence, qu'il était peut-être triste, là. Comment ça se termine?
En fait, très triste, ça faisait 16 ans qu'il n'avait rien fait, il ne va pas nous faire chier non plus, triste de quoi?
Ouais.
Il faut arrêter. Le gars, c'est la deuxième retraite en 15 ans. C'est pire que Johnny Hallyday, quoi. Non, mais c'est n'importe quoi. En bref, allez, on enchaîne. Alors là, c'est le match un peu surprise. On pensait qu'il allait disparaître parce qu'il était déjà 5h30 du matin en France. Et donc, très tard, ça faisait déjà quasiment 5 heures de show, hein, plus de 5 heures de show. On pensait vraiment qu'on n'allait pas les voir. On va aller très rapidement sur ce match parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Naomi via soumission qui gagne parce que c'était le championnat des féminins de SmackDown en 6-pack challenge. Il y avait Alexa Bliss qui était championne versus Becky Lynch versus Mickey James versus Kamala accompagnée de James Rose. Elle Rose, je le dis bien, versus Natalia versus Naomi. Naomi, c'est la locale. Hein. Voilà, elle gagne le titre, elle fait une super entrée, il faut être honnête. Le match a été expédié parce que clairement, ils étaient très en retard. Très rapidement, on va essayer aussi d'expédier ce match dans notre explication. Anto, qu'est-ce que tu en as pensé? Victoire logique de Naomi, là aussi.
Ouais, victoire logique, combat correct pour qu'est-ce qu'il y avait. Mais qu'est-ce que je trouve dommage, c'est que c'était un combat comme si c'était 2 ans à l'arrière avant la révolution
féminine. Avant la révolution féminine.
Soit foutre un combat féminin de 30 secondes et plus environ entre deux main events en bouche-trou. Là. C'est le combat inutile pour aller s'acheter du popcorn ou aller aux toilettes.
Juste avant le main event qui était Roman Reigns Undertaker, on va en parler dans quelques secondes. Vous pouvez réagir hein, d'ailleurs sur le hashtag, dans les commentaires, etc. sur ce podcast, donner vos avis. Voilà, bien entendu, on vous écoute. Oui, très rapidement, on dit sur ce match, parce que là aussi, on ne va pas
dire 10 ans. Ce match-là, honnêtement, c'était, à mon avis, quand même, ça a été chaud de le passer là, parce que ceux qui étaient fatigués à cette heure-là en France, je veux dire, hein, ouais. se sont endormis, parce que bon ouais. voilà. Moi, je m'attendais à un six-pack challenge match, c'est-à-dire un match, mais quand même dans les six-pack challenge, ils sont éliminés quoi, c'est ouais. un match à élimination.
Ouais, ouais.
Mais là, non, bah non.
Voilà. Je m'attendais. C'est vrai qu'il y avait des règles, on les comprenait pas trop. Bien
d'accord. Ouais, voilà. Ça. Je m'attendais à des retours surprises, et là, personne. Il y a oui. eu personne. Victoire de Naomi, ben on s'y attendait, non mais c'était gros comme une maison. Quand elle a fait son retour, on s'y attendait, c'était ouais, obligé. C'est
ce qu'on disait, hein. On disait Orlando chez elle, elle rentre en dernier, avis, enfin quasi.
Et comme vous l'avez dit, à mon avis, c'était juste le match pour couper un peu entre deux gros matchs, quoi. Du ouais. moins deux gros matchs.
Lui aurait mérité le pré-show, et c'est pour voilà. ça qu'il l'avait mis en pré-show, faut pas chercher.
Ouais, lui, oui. Voilà.
C'est un match de pré-show qui est descendu, ils l'ont juste pas rebooké. C'est-à-dire qu'ils l'ont laissé booker comme ils auraient dû être bookés en pré-show. On enchaîne et on termine avec ce magnifique match. Roman Reigns versus Undertaker en main event. Alors, c'était le main event honorifique parce que c'était le dernier match de l'Undertaker. À la fin, il pose ses habits de lumière sur le ring et se casse de façon très, très digne avec la musique qui dure 10 minutes. Là aussi, ils auraient pu couper un peu. ça ne va pas me faire un peu des ennemis. Roman Reigns versus Undertaker. Roman Reigns qui court Taker. Et qui devient vraiment un catcheur avec une épaisseur, il me semble, avec cette victoire, Andy. Et après, quelques mots sur la fin de l'Undertaker, mais sur le match d'abord.
Alors, sur le match, bah déjà, j'ai trouvé quand même excellent pour ce que Undertaker peut faire, je veux dire, voilà. Après, ce qui me saoule quand même, c'est de revoir Roman Reigns en main event. Bon, là, vraiment, il faut arrêter, quoi. Ça fait 2 ans, voire 3 ans d'affilée qu'il nous fout en main event. Vraiment, mais ce que j'ai aimé le plus dans ce match, c'est qu'on a vu que vers la fin, quand même, Roman Reigns a beaucoup hésité. Hein.
Oui, bon, alors ça, attends, j'hésite moi aussi, mais bon, vas-y. Oui.
Il a quand même un peu hésité, ça se voyait sur son regard quand même. Il n'était pas non plus ultra serein, et bon, maintenant, il a des promos de merde, on va dire. Je suis désolé, quand il est arrivé à Raw et qu'il a juste dit...
Ah non, je ne suis pas d'accord, mais parce qu'il a dit 3 mots. Il aurait dit plus de mots, ça aurait été une promo de merde. Non, là, ça a été très fort. Il est meilleur quand il ferme sa gueule.
Il s'est fait insulter de tous les noms à Raw. Il dit juste, c'est mon jardin, il se casse. Le mec
ne sert à rien. Mais c'est génial. Mais non. C'est là où il a enfin, il a vrillé. Et c'est là où c'est intéressant. Il a enfin vrillé dans le personnage qu'on lui accole. C'est-à-dire.
Juste comme ça, ça fait quand même quelques jours. Ça faisait déjà au moins 2 semaines qu'il avait déjà vrillé. Parce que oui, ça fait quand même 2 semaines.
Ça fait deux semaines, c'est son jardin. Il faut savoir que sa victoire sur ce match qui est pas nul hein, en soi, hein, qui est pas exceptionnel. Hein, je suis pas en train de te dire, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. De toute façon, plus t'avançais dans le match, plus tu voyais pas l'Undertaker gagner. Faut être un peu honnête. Et donc voilà, le match n'était pas mauvais, mais je trouve que c'est la meilleure idée du show. c'est de faire gagner Roman Reigns sur l'Undertaker, l'Undertaker qui part, et le lendemain à Raw, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Le mec, voilà, ça y est, je trouve qu'il a pris de l'épaisseur, ce qui manquait un peu, et finalement, ils ont compris qu'il fallait pas le faire parler, le mec. Et ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà une belle victoire pour moi. Je pense qu'ils ont écouté le podcast il y a une semaine. Mais je pense que voilà, il faut pas le faire parler. Qu'est-ce que t'en penses, Anto? Enfin, sur ce match, le match en lui-même n'est pas mauvais.
Non, mais c'est sûr qu'il est pas mauvais, là, mais pour moi, c'est une grosse déception que ça se termine ainsi, puis en plus par Roman Reigns. Je pense que ça aurait pu se terminer beaucoup plus beau et plus victorieux pour l'homme le plus historique à WrestleMania. Là.
Oui, mais là, alors, c'était... la question, mais alors qui pour couvrir Roman Reigns? Qui pour son dernier... L'Undertaker? Qui serait capable aujourd'hui de... On mettrait un John Cena, on dirait que ça serait too much. Qui peut aujourd'hui, pouvait mettre fin à l'Undertaker? Honnêtement. Donnez-moi un nom.
Moi, personnellement, je vais me contredire. La semaine dernière, dans le podcast, j'avais dit que Roman Reigns ne devait pas le faire.
Ouais.
Eh bien, je me contredis. Je trouve que c'était lui, en fait, la bonne personne.
Mais oui.
Mais qu'il n'aurait pas fallu faire ça à Brock Lesnar, alors, à WrestleMania 30.
Je suis d'accord.
Une personne aurait suffi.
Oui, peut-être. Une personne aurait suffi. Des défaites, je te l'accorde. Mais en soi, donnez-moi un lutteur qui, aujourd'hui, pourrait mettre fin... Donne-moi ça. Que ça soit logique, hein.
Non, mais moi, c'est pas une question de mettre fin, mais c'est juste une question qui gagne, puis que lui mette fin par lui-même. Undertaker.
Ah, disent je gagne, et en plus, je pose Bégan. Ouais.
Exact. Parce que là, c'était presque humiliant de voir Roman Reigns enchaîner finition par-dessus finition pendant qu'il est au sol. Puis le bang, c'est fini. Là.
Bon, il y a eu pas mal de botch hein, pendant ce match. Tu nous as remarqué, Anto, notamment, sur Pidwiver qui est que Roman Reigns n'arrive pas à retourner. Bon, ça montre que son niveau in-ring n'est pas encore... Voilà, bon, il n'a pas été aidé aussi par l'Undertaker qui était au bout du rouleau, hein, faut être honnête. Hein. Mais il faut être honnête. Bon, enfin, voilà, moi je me dis, dans une logique de construction de personnages comme ils veulent construire Roman Reigns, en plus, voilà, il va devenir un heel vraiment détesté. Et maintenant, il assume complètement ce personnage, c'est plus, mais pourquoi vous m'aimez pas, je suis super gentil, tu vois. Il n'y a plus ce côté-là, il y a un peu ce. Voilà, maintenant j'assume d'être un gros connard sur le papier du moins. Donc voilà, finalement il faut savoir que tous les résultats servent les rebondissements dans la série qu'est le catch. Si l'Undertaker gagnait pendant 20 ans, effectivement, enfin pendant entre guillemets, si l'Undertaker gagnait, entre guillemets, c'est très bien d'avoir des légendes comme ça en disant l'Undertaker, on dira ça à nos gosses, l'Undertaker n'a pas perdu pendant, sauf deux fois, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, on a envie d'avoir des rebondissements, on a envie d'avoir des gens à détester, on veut pas vivre que dans le passé en disant l'Undertaker, il aurait pu faire un 30-0 et tout, on s'en fout quoi. Honnêtement, on s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir Roman Reigns, et l'Undertaker, il se casse, il ne sera plus capable de combattre, et là, il gagne, et vous mettez un nouveau personnage qui sont des personnages de maintenant, des années 2000. Voilà, tout simplement.
Après, ce que j'ai envie de voir, ça va être quelle sera la suite pour Roman Reigns, puisque maintenant, s'il dit que WrestleMania, c'est son jardin, qu'est-ce qu'ils vont faire, la WWE, avec ça?
Qui dit pas qu'il va avoir une... Est-ce qu'il a perdu à WrestleMania, déjà? Ce serait intéressant à savoir.
À WrestleMania 31, c'est Seth Rollins qui avait pris la mallette.
Effectivement. Pas une victoire en single match. Si
Il était contre Brock Lesnar.
Pardon. Oui, effectivement. Bon, Brock Lesnar a gagné l'Undertaker, on l'avait dit à l'époque. Ils n'allaient pas le faire contre Reigns. Un dernier mot sur ce match et sur la fin de l'Undertaker. Anto.
Déception.
Ah ouais, on l'a perdu, le mec. Pourquoi déception? Déception de que ce soit Roman Reigns, c'est ça?
Exact, puis déception que ça s'est passé ainsi. Moi, je me tiens que c'était une défaite de trop, puis que son départ aurait pu être mieux. Là. Juste ça.
Et donc, Roman Reigns, l'Undertaker, qu'est-ce que vous allez retenir? Est-ce qu'il a bien fait le bon choix de partir comme ça? D'ailleurs, je vais vous l'afficher à l'écran, hein, parce qu'on parle de Roman, c'est de l'Undertaker. J'avais oublié. Donc voilà, très rapidement, encore une fois, Undertaker, Roman Reigns. Qu'est-ce que vous allez retenir de l'Undertaker, même dans sa carrière, pour lui, très rapidement, en un mot?
Excellente, la carrière.
Excellente, sans fausse note.
Bah, quand même, il a eu une très très grande carrière.
Hein. Oui, non, je ne sais pas. Hall of Fame l'année prochaine beaucoup, ou pas
Oui, il faut qu'il y ait le Hall of Fame. C'est effectivement son, son dernier combat. Il faut qu'il l'aille puis directement l'an prochain. Oui, ça c'est sûr.
Et est-ce qu'il va casser sa KFB ou pas? C'est la grande question. Est-ce qu'il doit casser sa KFB? Même Hall of Fame.
Quand c'est quoi?
Sa KFB. Sa... Son personnage.
Son personnage.
Ah, non, non, non. Ça non plus, il faut pas, non, oui.
Donc il faudra, il faudra qu'il vienne en chapeau et machin et qu'il parle comme des outre-tombes.
Ben, moi, je pense que oui, parce qu'il l'a toujours fait depuis le début. Depuis le premier jour, il est comme ça. Fait que moi,
non, il a été motard pense... aussi, oublie pas.
Oui, mais il était quand même dans son rôle.
Donc, pour toi, il faut pas casser le personnage. La KB, il faut pas la tuer, même au Hall of Fame.
Non, non, il faut pas briser. Au juste, c'est quoi tu dis? Tu dis-tu K-Fame?
Ouais, KB.
Ah, KB. Ok, bon, le K-Fame.
Si tu veux. Ah, ça y est.
Pardon. Puis oui, je pense pas qu'il faut le briser parce que c'est tout ça son histoire. Puis encore une fois, là, non, il faut pas briser ça. C'est comme Kurt Angle. Mais Kurt Angle, il a rien brisé cette année. Sting, il a rien brisé. Donc je pense qu'il faut continuer là-dessus.
Il faut continuer là-dessus. Bon, mais ça sera le mot de la fin sur l'Undertaker Roman Reigns. Il y a plein de choses qui vont se passer dans les Raw et SmackDown. Voilà, prochain. Un dernier mot sur ce WrestleMania. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel est votre bilan général sur ce WrestleMania? On va commencer avec Toronto. Et ne te moque pas, j'ai dit KB, mais ça peut être KB aussi, ça marche. Moi, je me comprends. T'as vu, Andy m'a compris.
Oui.
Tu vois?
Donc, pour faire très rapide, là. Donc, c'était bien, mais pas en profondeur. C'était bien de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Puis le plus gros problème, là, je pense que c'était la longueur du show. Là. Je veux dire, il y avait vraiment une heure de trop. Là. Je veux dire, ça a duré 7 heures au grand complet.
C'est ça, c'était interminable.
Ouais, exactement. Là, je veux dire, s'ils sont pas capables de rentrer ça en 4 heures, mais qu'ils l'annoncent d'avance, là, au pays, là, comme ça, personne sera surpris, puis peut-être ça va mieux passer, là, mais c'était trop long à regarder. On peut plus rester actif 7 heures, mais dans une chaise.
Là. C'est ça. Andy, sur ton bilan général de WrestleMania.
Alors, un bon WrestleMania quand même dans l'ensemble. Certains matchs ne servaient à rien, je vais être franc quand même, parce qu'il y en a vraiment, on s'ennuie. Mais sinon, trop long aussi. Hein. Vraiment, une heure de plus, c'était quand même... On nous annonçait que ça allait durer jusqu'à 5 heures, ça a duré une heure et demie de plus. Donc quand même, au bout d'un moment, on en a marre. Mais bon, après, c'était quand même un bon WrestleMania.
C'était plutôt un bon WrestleMania, mais j'ai trouvé ça un peu linéaire. Effectivement, c'était très long. C'était très long. On a un peu de soucis. Et je m'attendais à des trucs extraordinaires et on a eu que des trucs ordinaires. Et finalement, le WrestleMania en lui-même n'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des bons matchs, les finalités s'arrêtent bien, il y a des surprises, il y a le mariage, il y a les Hardy Boys, il y a la fin de carrière.
Surprise mariage, on n'est pas d'accord, hein. C'était pas trop une surprise.
Oui,
hein.
Mais pour l'Undertaker non plus, c'était pas une surprise. Hein,
On n'a pas eu de surprise.
Et pour les Hardy Boys, c'était pas une surprise, si tu suivais les infos.
Ah oui, donc on n'a pas eu de surprise.
Si, mais en fait, il y avait tous les ingrédients d'un show extraordinaire, et finalement, je trouve que ça, tout n'a pas pris. C'est un bon show, encore une fois, il y a de tout, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a des retours, il y a de la fin de carrière, il y a de l'émotion, mais... Il manquait encore un tout petit truc pour se dire « Oh putain !» Et bien, justement, ce qui manquait, c'était un spot d'un Shane McMahon. Voilà, d'un spot comme ça où tu disais « Oh putain !» En plus, il y a eu du spectaculaire. Du spectaculaire in-ring. Il n'y a pas eu de spectaculaire in-ring. Ou Seth Rollins qui fait quelque chose d'extraordinaire. Ou un Brock Lesnar, Goldberg, exceptionnel. Il manquait l'exceptionnel. Il y avait tous les ingrédients, mais il manquait l'exceptionnel. Et le retour surprise, la Hardy Boys. Parce que bon,
mine de rien, ça arrête. Ils nous ont un peu cassé quand même toutes les traditions, parce que j'ai envie de dire, on avait l'habitude maintenant de voir The Rock revenir, on avait aussi les matchs pour le titre intercontinental, ils nous ont un peu tout cassé. Hein.
C'est très marrant parce que The Rock n'était pas présent à WrestleMania, bon, voilà, il a tweeté pour remercier les équipes et tout. 4 jours après, la semaine dernière, là, vendredi ou jeudi, il était en direct d'Orlando avec Jimmy Fallon. C'est-à-dire que le mec ne s'est pas déplacé, mais je pense que c'est une histoire de contrat et de pognon. Hein. The Rock, il aime beaucoup la WWE, il faut le payer.
Il faut savoir aussi que Vince McMahon avait un peu la haine après la séquence sur CM Punk quand même.
Ça reste The Rock.
Ouais, voilà, ça reste The Rock.
Et ils font revenir Matt Hardy et Jeff Hardy qui étaient torchés sur les rings. Alors, J'imagine qu'une phrase de The Rock dans un show, ne va pas casser. Mais le mec ne s'est pas déplacé pour WrestleMania, mais s'est déplacé pour la promotion de Fast and Furious 8 à Jimmy Fallon 4 jours après, qui était à Orlando. Donc, je pense qu'il y avait une histoire de contrat sur ça. Bref, voilà, je crois que là, on a atteint un peu, on a dit un peu tout ce qu'on avait à dire sur ce WrestleMania. Peut-être un dernier mot pour conclure, pour remercier tes fans, Andy, qui t'ont écouté, on te retrouve où, qu'est-ce que tu fais, sur Catch News, c'est ça.
Oh oui, vous allez me retrouver sur Catch News. Bon, cette semaine, j'ai pas beaucoup écrit. Bon,
ouais, voilà, mais ne dis pas ça, c'est la cuisine interne, ça, ne dis pas.
Voilà. Normalement, là, à partir de cette semaine, on va me retrouver sur Catch News, et puis voilà.
D'accord.
Et j'espère faire d'autres projets avec Catch News, faire d'autres choses plus grandes.
Ah oui.
Et puis voilà.
Anto, tu voulais remercier aussi tous les gens qui nous ont suivis pendant cette aventure à WrestleMania. Je crois que les résultats et les chiffres sont impressionnants.
Exactement. Donc, les chiffres sont très impressionnants. Donc, en fait, c'est sûr que j'en profite pour remercier les dizaines de milliers de personnes qui sont venues nous visiter. En fait, à chaque jour, sans cesse, sans arrêt, pour nous suivre avec nous. Là. Donc, ça a été beaucoup de plaisir pour tout le monde, beaucoup de participation. Là. Donc, en fait, ça a été le plus grand WrestleMania pour Catch News. Là. Donc, un grand merci à tout le monde.
Et l'année prochaine, ça sera encore plus grand parce qu'on vous prépare plein de surprises. Voilà, vous pouvez retrouver justement l'interview de Philippe Ajus. Philippe Chéreau et Christophe Ajus. Philippe Portela. Le mec qui pète un câble complètement.
Il a fait un mélange.
Ouais, il a fait un mélange. Malheureusement, en plus, c'est moi qui suis allé les interroger. Donc voilà, vous pouvez aller les retrouver à l'interview. Parle de Gobler de WrestleMania 33. Ils nous ont donné rendez-vous très vite pour plein de surprises. On dira les voir. Vous inquiétez pas, on est en contact avec eux. Comme ça, c'est fou, incroyable. Donc vous pouvez retrouver cette interview. Nous vous remercions de nous avoir suivis pendant toute l'aventure WrestleMania qui va se terminer très bientôt. Merci de nous avoir suivis pendant ce podcast. N'hésitez pas à réagir et à le partager. On vous embrasse et puis à très vite, de toute façon, sur Catch News. Au revoir les enfants, merci.